Et maintenant, pour vos nouvelles locales en vertu du financement par l'initiative de journalisme local. Lundi matin de la semaine dernière, le 18 juillet, Keith Arthur Sisko a plaidé coupable d'être complice de meurtre après le fait dans le cas du meurtre de Colton James Cook, un jeune de 26 ans de Yarmouth en fin de septembre 2020. Robert Charles Rogers et Wayne Richard Crawford ont été accusés de meurtre au second degré et l'indécence envers des restes humains. Ils attendent leur procès et les accusations n'ont pas été prouvées en cour. Au moment de leurs arrestations en septembre 2020, Rogers était âgé de 57 ans et Crawford de 36 ans. Rogers et Crawford demandent également à la cour de déplacer leur procès hors du palais de justice de Yarmouth, arguant que l'attention que le procès a suscité dans la région pourrait biaiser l'issue du procès. Plus d'une douzaine de personnes tenant des affiches se promenaient devant le palais de justice de Yarmouth lundi matin, les pancartes portant des inscriptions telles que « Justice for Colton ». De nombreux passants en voiture klaxonnaient. À l'intérieur de la salle d'audience, les procédures ont été gâchées par des difficultés techniques liées à la vidéoconférence. Cependant, en réponse à l'accusation de complicité de meurtre après le fait, l'énoncé de M. Sisko a été clair. « My plea is guilty ». Pour convaincre le juge, Pierre Muse, que les faits correspondent à l'acte d'accusation, le procureur de la Couronne a lu une version préliminaire de l'exposé conjoint des faits détaillant partiellement l'enchaînement des événements de cette nuit de septembre. Les détails qui suivent, comme les a présentés le procureur de la Couronne, pourraient être difficiles pour certains auditeurs. M. Sisko était propriétaire d'une résidence au 1338 Highway 340 à South Ohio, dans le comté de Yarmouth, où Robert Rogers et Wayne Crawford résidaient, et Sisko y séjourna à l'occasion. Le 25 septembre, M. Sisko est arrivé à la propriété en taxi vers 22h30. Colton Cook, qui s'était déjà rendu à cette résidence une fois auparavant, est arrivé près d'une heure plus tard dans son propre camion. Les trois individus buvaient et ont été décrits comme étant en état d'ébriété à un degré ou à un autre. À un moment donné, Rogers s'est énervé pour des raisons inexpliquées. Il a pris un fusil de chasse chargé de grenailles pour oiseaux, c'est-à-dire « birdshot », et a tiré sur M. Cook, qui n'a pas été tué. Rogers et Crawford ont ensuite poignardé M. Cook à mort en présence de M. Sisko. Quelque temps plus tard, vers 4h30-4h45 du matin, les trois accusés sont partis dans le camion de M. Cook, M. Sisko étant au volant. Le corps de M. Cook était chargé à l'arrière par les trois. Le corps a été jeté hors de Saunders Road à Tuskett et son camion a été abandonné un peu plus loin sur la route qui devient Pittman Road dans South Ohio. Les trois hommes ont été observés retournant à pied au 1338 Highway 340. Le camion qui a été brûlé et les environs ont été fouillés plus tard par les membres de la famille de M. Cook. Après avoir identifié une jambe sectionnée du corps, ils ont pris conscience qu'il s'agissait bien plus qu'une affaire de disparition. Après que le corps de M. Cook ait été repéré par des passants, la police a conclu qu'il s'agissait d'un homicide. Lors d'un entretien avec la radio CIFA, la mère de la victime, Stacy Cook, a déclaré qu'elle s'était sentie submergée par ses émotions, notamment après avoir appris de l'utilisation du birdshot.
Shot with a bird shot. I'm a hunter. I know what they do. They don't kill, not people. No. And so he did die a tragic, scary death. And so that's hard to deal with since I'm not allowed to have that information. That's off your face at court.
Cependant, la mère de la victime ne connaît toujours pas qu'est-ce qui a motivé le meurtre de son fils. Elle a également exprimé sa déception quant aux détails qui ont été omis. La radio CIFA ne les divulguera pas actuellement, respectant une interdiction de publication imposée par le tribunal. Cependant, il n'est pas clair si ces détails seront ajoutés plus tard, avant le prononcé de la sentence, étant donné que l'exposé conjoint des faits est à préliminaire. Madame Cook espère sincèrement que les deux accusés de meurtre plaideront coupables, étant donné les difficultés qu'elle vit lors de la procédure.
I hope they plead because I really don't want to have to go through here what they did to my son.
De plus, Madame Cook, avec qui le procureur de la couronne a discuté de la peine recommandée, doute la justesse de la sévérité de la peine qui sera imposée sur Monsieur Sisko.
The fact that he is probably going to get very little time for his involvement. there's proof that he was there from the beginning to the end. My son's body. He removed it. He used his truck. He burnt the truck. He was involved in all this stuff, but, you know, I guess, you know, little time for a little crime, I guess. Nowadays, the way I feel, part of life is being born. You can die from a disease. You can die from a car accident or an accident that happens. And people are taking it too lightly now. Murder is part of life. It should never be. Never. It's not part of life. That's someone else's choice to take someone's life. They don't have that right. Ever.
Toutefois, le juge n'est pas obligé de suivre la recommandation de la couronne. La cour a fixé la date du 18 novembre pour le prononcé de la sentence. Celle-ci aura lieu en personne et la cour entendra également les déclarations des victimes. Monsieur Sisko, qui s'identifie comme une personne autochtone, a demandé à la cour d'entreprendre un cercle de détermination de peine avant le prononcé de sentence officielle. Parlant généralement, Justice Canada précise que lors des cercles de détermination de peine, qui peuvent faire partie des processus judiciaires même s'il ne s'agit pas du tribunal à proprement parler, la Cour invite les membres intéressés de la collectivité à se joindre au juge, au poursuivant, à l'avocat de la défense, aux policiers, aux fournisseurs de services sociaux, aux anciens de la collectivité, de même qu'aux contrevenants, à sa victime, à leur famille et aux personnes qui les appuient, à se réunir au cercle, pour discuter de l'infraction, des facteurs pouvant y avoir contribué, des peines possibles et des façons de réintégrer le contrevenant dans la collectivité. Justice Canada continue en indiquant que les cercles de détermination de peine peuvent offrir aux juges de bons moyens d'obtenir les commentaires et les conseils de la collectivité avant de fixer une peine appropriée et efficace. Souvent, le cercle propose une peine réparatrice à purger dans la collectivité comprenant une forme quelconque de restitution à la victime, du service communautaire, à un traitement ou du counseling, avec ou sans période de détention. Il importe de signaler cependant que le juge n'est pas tenu d'accepter les recommandations du cercle. Pour les personnes autochtones en Nouvelle-Écosse, les cercles de détermination de peine sont organisés par le Mi'kmaq Legal Support Network. S'adressant à Saltwire Media, la mère de Cook a déclaré qu'elle souhaitera y participer s'il a lieu. Au moment de l'audience, la couronne n'avait pas pris de position sur la demande d'un cercle de détermination de la peine. Avant la détermination de la peine en novembre, les parties devront encore rédiger un nouveau rapport présententiel. En plus de l'affaire de Colton Cook, les pancartes des personnes présentes devant le palais de justice comportent également des notes relatives à l'affaire de la disparition de Zach Lefebvre, un homme de Yarmouth alors âgé de 20 ans qui a été vu pour la dernière fois dans les premières heures du 1er janvier 2021 après avoir quitté une fête du Nouvel An. Les maires de Cook et Lefebvre ont cherché à se soutenir mutuellement dans leurs épreuves respectives. Gilles Saunier, Radio CIFA.